Il est 18h.
Voyez, on est obligé de faire demi-tour. C'est quand même du jamais vu. Et c'est désolant pour cet enjeu climatique essentiel.
Les marcheurs pour le climat obligés de rebrousser chemin à cause des Black Blocs qui ont infiltré leur cortège des gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Voilà pour les principaux incidents qui ont marqué ce samedi à Aurisk, avec 7500 gendarmes et policiers déployés dans les rues de Paris. Au dernier pointage, 152 personnes interpellées, 90 placées en garde à vue. Manifestation beaucoup plus calme pour les retraites.
En sport, une belle entrée en matière du 15 de France au Mondial de rugby au Japon. Victoire 23-21. Mais attention à ne pas croire que tout est gagné pour passer le stade des poules.
Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère que ça va continuer. Il ne faut pas, surtout pas qu'on se relâche, les gravir marche après marche.
Et puis jour de grand nettoyage pour la planète, comme sur la plage de la Croisette à Cannes.
Parce que sinon les poissons mangent et ils vont s'étouffer.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1.
Emmanuel Macron, Fabienne Lemoyle avait lancé un appel au calme hier soir. Les autorités considéraient en effet ce samedi comme une journée à risque entre l'acte 45 des Gilets jaunes, vous l'avez rappelé, la marche pour le climat et le cortège de forces ouvrières contre la réforme des retraites.
Résultat paricadrillé par les forces de l'ordre et des incidents finalement cet après-midi dans le cortège de la marche pour le climat. Un millier de Black Blocs qui ont infiltré le cortège selon la préfecture de police et les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Et Victor Delande, vous avez suivi le cortège pour Europe 1. C'est au début de la marche que les incidents ont éclaté.
Oui, à peine 30 minutes après le début de la marche, la situation s'est brusquement tendue. En tête du cortège, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des Black Blocs, ces manifestants habillés en noir de la tête aux pieds. Ces derniers ont mis le feu à plusieurs scooters garés sur le boulevard Saint-Michel, brisé des vitres de magasins, des abribus et des kiosques à journaux. Les CRS ont répliqué par des tirs nourris de gaz lacrymogène et de grenades de deux encerclements. Mouvement de panique dans la foule, marche arrière et incompréhension au sein des manifestants. Ouria était en tête de cortège, elle pointe la responsabilité des forces de l'ordre.
C'est un sentiment de gâchis, bien sûr, parce qu'on vient en musique, on vient faire la fête et en même temps interpeller nos décideurs pour qu'il y ait une autre résonance au climat et qu'on prenne soin de notre planète et accessoirement de l'être humain, on va dire. Et en fait, là, ils nous montrent clairement que, un, ils n'en ont rien à foutre des êtres humains. Nous, vous voyez, moi, je suis absolument ni armée ni casquée, j'ai été gazée. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de la provocation de la part des manifestants.
Pour Patrice, au contraire, c'est uniquement de la faute des Black Blocs si la situation s'est envenimée.
C'est eux qui arrivent à imposer leur timing. Et c'est y a les affrontements. Et là, vous voyez, on est obligé de faire demi-tour. C'est quand même du jamais vu. Et c'est désolant pour cet enjeu climatique essentiel.
Depuis plus d'une heure maintenant, en tête de cortège, la situation est redevenue beaucoup plus calme. Chant pour le climat, danse et animation remplacées les images de violence. Plusieurs jeunes enfants de 4 à 8 ans ont assuré l'ambiance tout devant. On n'a pas de temps à perdre avec les gens violents, m'a glissé l'un d'entre eux. Nous, on doit continuer à marcher et à manifester pour préserver notre planète.
Et Victor Delande dans la marche pour le climat à Paris pour Europe.
En tout cas, après ces incidents, l'ONG Greenpeace a réagi immédiatement dans un tweet en annonçant leur position. Ne prenez aucun risque, quittez la marche pour le climat. Décision justifiée par Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, au micro de Théo Manval.
C'est un vrai sentiment de gâchis. On n'avait absolument pas besoin de ça. On avait besoin d'une manifestation familiale, non violente, pacifique, avec du monde. Moi, j'étais en tête de cortège. C'est devenu violent très, très rapidement. Des manifestants cagoules noires qui ont dépassé le cortège et qui sont venus s'affronter avec les policiers devant le cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une réaction disproportionnée de la part de la police, dans le sens où on a vu des grenades lacrymogènes arriver là au milieu des manifestants qui étaient tout à fait pacifiques et non violents. Des salariés ou des militants de Greenpeace qui étaient avec leurs enfants. Donc, c'est sûr que dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et c'est très décevant, c'est assez triste. Ça nous met un peu en colère aussi que ça se passe comme ça. Il va falloir réfléchir maintenant tout de suite à la suite de la mobilisation et trouver d'autres moyens pour faire en sorte que cette mobilisation se poursuive, parce qu'on a besoin qu'elle se poursuive.
Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France. La marche pour le climat qui a rassemblé 15 200 personnes selon le décompte du cabinet Occurrence, décompte fait pour un groupe de médias dont Europe 1. Alors on le disait, Paris avait été placé sous haute surveillance avec un déploiement imposant de forces de l'ordre et beaucoup de contrôles préventifs. Résultat, Chloé Triomphe, où en est-on au niveau interpellation ce soir ?
Eh bien, le dernier bilan fourni par la préfecture de police donne 152 interpellations, 302 verbalisations et 90 gardes à vue, selon le parquet de Paris. Des chiffres finalement assez bas comparés à ceux qu'on a pu voir certains samedis ultra-violents du mois de décembre dernier. Alors, qu'est-ce que cela dit ? Eh bien, cela montre surtout que ce n'était pas l'objectif principal des forces de l'ordre aujourd'hui, qui avait essentiellement pour consigne de disperser les attroupements violents dès qu'ils se forment. Ça a été le cas, par exemple, ce matin, avant 10h vers Madeleine, puis une heure plus tard sur les Champs-Élysées. Et puis, c'était le rôle des braves, ces brigades de répression des actions violentes cet après-midi dans les manifestations. Cela correspond effectivement à ce qu'avait annoncé le préfet de police hier, avec ce dispositif non seulement du nombre, 7500 policiers et gendarmes dans les rues de Paris, mais surtout de la mobilité, avec ce dispositif notamment de 180 motos capables de transporter 6 compagnies. Alors, vous avez vu qu'un millier environ de Black Blocs et individus violents ont infiltré le cortège des manifestations. Il y a eu des dégradations, des violences, mais à ce stade, rien de comparable avec le pic de violence de l'an dernier.
Chloé Triomphe du service police-justice européen. Et à noter que parmi les 152 personnes interpellées, il y a un policier qui n'était pas en service et qui est en garde à vue ce soir pour outrage et rébellion envers les forces de l'ordre.
Sur cette consigne et cette stratégie du maintien de l'ordre, dans 10 petites minutes, je ferai réagir Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général adjoint du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure sur Europe 1. Ambiance nettement plus calme, Fabienne Lemoyle, pour le rassemblement à l'appel de forces ouvrières contre la réforme des retraites.
Plusieurs milliers de personnes, en effet, Wendy, pour un cortège parti de Duroc qui a pris la direction de la place d'Enfer Rochereau, avec des pancartes où l'on pouvait lire « Retraite universelle de Macron, c'est non » ou encore « Non au travail sans fin » et des manifestants, vous allez l'entendre, déterminés.
Nous sommes là tout simplement pour défendre notre régime spécifique de retraite. Et également pour lutter contre la retraite par points, qui pour nous est un travail sans fin. Surtout pour les générations à venir.
On a un mouvement en marche. Pour lui, un euro cotisé doit être un euro le même pour tout le monde. Or, s'il est marcheur, il sait bien qu'un kilomètre à pied sur du plat, un kilomètre à pied sur de la pente ou un kilomètre sur la montée, c'est un kilomètre, mais ce n'est pas la même pénibilité.
Nos acquis, on va en perdre beaucoup. La retraite de mes petits-enfants, ça va être une petite pension, travailler plus pour gagner moins.
Ben, je pense que là, on arrive sur un point de non-retour. Et donc, on va s'orienter vers ce qu'on appelle la convergence des luttes pour éradiquer ce gouvernement néfaste.
Des témoignages recueillis par Élise Dangean dans le cortège de forces ouvrières. Notez que 5 syndicats de la RATP ont annoncé une grève illimitée à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites. Pour l'instant, la CGT ne s'y est pas associée.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et en rugby, ils nous auront fait peur jusqu'au bout. Le 15 français s'est finalement imposé 23-21 face à l'Argentine ce matin pour son premier match de la Coupe du Monde au Japon.
Il faut dire que les Bleus jouaient gros, leur groupe de qualification est particulièrement relevé, 2 places à prendre et l'Angleterre grand favori, d'où ce match capital face aux Pumas qui font figure de principal adversaire des Bleus pour passer le stade des poules. Simon Rubin, l'envoyé spécial d'Europe 1, a suivi cette rencontre pleine de rebondissements.
Il reste moins d'une minute, le stade est sous tension, pénalité pour l'Argentine. Si elle passe, la France a perdu. Dans la tête des joueurs bleus, la peur, Camille Lopez.
Je te dis merde, parce qu'il reste 40 secondes, si ça passe, c'est mort. Je te dis que tu t'es fait chier à bosser dur, à faire le match que tu as fait pour au final ressortir vaincu. Mais voilà, on a, cette fois-ci, ça nous a souri et j'espère que ça sera le déclic pour quelque chose de bien.
Malgré une seconde mi-temps catastrophique, les Bleus s'imposent donc. Après des années de défaites et de frustrations, les joueurs exultent. Preuve que notre travail paye enfin, résume Camille.
Je pense qu'il y a quelques temps, on aurait perdu ce match. Et il y a quelques temps, on perdait les matchs à la fin comme ça. Et voilà, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère que ça va continuer. Il ne faut pas, surtout pas qu'on se relâche. Il ne faut pas qu'on se voit beau et gravir marche après marche.
Ce soir, les Bleus peuvent donc respirer. Ils sont encore en vie dans ce mondial. La route des quarts de finale est même dégagée. De quoi être plus serein avant le prochain match contre les États-Unis dans 10 jours. Tokyo, Simon Rubin, Europe 1.
Et le prochain match, c'est face aux Américains, effectivement, le 2 octobre. On y reviendra dans le journal des sports dans 10 minutes. Si je vous dis World Clean Day, vous me répondez, Wendy?
In English.
Traduction.
À vos sacs poubelles, oui.
Jour du grand nettoyage de la planète et surtout l'occasion de mettre en lumière de formidables initiatives pour rendre plus propre notre environnement et faire prendre conscience que la nature est fragile. Comme par exemple à Cannes, sur la Côte d'Azur, où Jacques Terrance a suivi la plongée d'apnéistes sur la plage de la Croisette.
Pascal, il y a quelques déchets. Tu peux les ramasser à ma place ?
Quand on est apnéiste, les fonds marins, forcément, ça vous concerne. Alors avec seulement un masque et un tuba, Laurent Lombard et d'autres plongeurs ramassent ce qu'on ne voit pas à quelques mètres sous l'eau. Canettes de soda, barquettes en plastique ou même des trouvailles plus insolites.
On essaye de sortir une chaise, mais elle est coincée au milieu des rochers.
Vous n'y arrivez pas ?
Non, impossible. Elle est coincée sous les rochers.
Il y a beaucoup de choses là au fond ?
Un petit peu, on a enlevé 5 ou 6 gros sacs de déchets. On les remonte, on va les amener sur la plage, on va trier et après ça partira à la déchetterie.
Un balai sous le regard interloqué des touristes, comme ce petit Canadien de 7 ans qui lui aussi sort de l'eau.
C'est pas vraiment propre, il faut peut-être qu'on pense plus à faire à ramasser.
T'as envie d'y retourner ou pas ?
Non, non, pas vraiment.
Et sur la plage, Laurent Lombard a étalé tout ce qu'il a ramassé pour appeler le grand public à la prise de conscience.
On ramasse là peut-être un millionième de ce qu'il y a dans la mer, c'est dérisoire. Là, les déchets descendent jusqu'à 200, 300, enfin dans les fosses, jusqu'à 1000 mètres. Et là, personne ne les ramassera par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail à terre. À expliquer aux gens que quand on jette quelque chose par terre, ça finit en mer.
Et la conséquence, elle est tellement évidente pour Simon, même pas 4 ans.
Parce que sinon, les poissons mangent et ils vont s'étouffer.
Exactement. Cannes, Jacques Terrance, Europe.
Et puis ce sont les journées du patrimoine à travers toute la France, avec des entrées sur inscription assez réglementées à Paris, je pense à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale. Mais ailleurs, la liberté totale. À Bordeaux, par exemple, vous pouvez découvrir pour la première fois à la basilique Saint-Michel, Fabienne, un rétable dont l'histoire est incroyable.
Eh bien oui. Imaginez, Wendy, que pendant des années, ce sont des panneaux en faux plâtre qui trônaient dans la basilique, posés par des voleurs qui voulaient cacher le fait qu'ils avaient justement volé de superbes panneaux en albâtre qui ont enfin retrouvé leur place. L'histoire, c'est notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place, qui nous la raconte.
En 1993, une conservatrice du Louvre donne l'alerte. Chargée d'expertiser des panneaux d'albâtre après le décès d'un antiquaire parisien, cette spécialiste est frappée par leur ressemblance avec ceux de la basilique Saint-Michel, ici à Bordeaux, à tel point qu'elle prévient la mairie. C'est tout de même curieux. L'intuition est bonne. Ces pièces religieuses du XVe siècle, d'une cinquantaine de centimètres de haut, ont bien été dérobées 9 ans plus tôt. Mais personne ne s'en était aperçu et pour cause, les voleurs ont comblé le vide. Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux.
Ils vont se faire enfermer plusieurs nuits dans la basilique pour faire des moulages des albâtres. Ils vont ensuite réaliser des faux plâtres de ces albâtres. Ils vont revenir d'autres nuits pour réinstaller ces faux plâtres et récupérer les vrais albâtres. Si bien que lorsque on nous signale que semble être sur le marché des albâtres bordelaises, le premier conservateur qui va aller dans la basilique, de loin, derrière des grilles, va observer le retable et dire non, on les a, pas de problème. Puis comme quand même ça paraît vraiment être les nôtres, on va aller voir de plus près et là en grattant, on s'aperçoit que c'est du plâtre.
Le vol est prescrit, mais il faut retrouver ces panneaux. Alors le FBI et la diplomatie française vont mener l'enquête avec à la clé des négociations rocambolesques pour obtenir 35 ans après le retour des 4 dernières sculptures, désormais surveillées de près. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et les journées du patrimoine, ça continue demain toute la journée.
Merci Fabienne Lemoyle, à demain.